Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Alexandre Papa-Emmanuel, spécialiste des questions de défense et de renseignement, enseignant à Sciences Po et à Paris 1, auteur notamment de l'ouvrage « Les espions de l'Elysée » avec Florian Vadillot chez Taillandier. Donc bonjour.
Bonjour.
Et on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle recommandation de film ou de série en période de confinement, autour aujourd'hui d'un très grand film, qui est souvent pas inconnu mais méconnu du grand public, pour des raisons dont on va reparler sûrement, qui est le premier de la série Rambo, First Blood, réalisé en 1982 par Ted Kotcheff, avec évidemment l'un des premiers rôles iconiques de Sylvester Stallone, quelques années seulement après Rocky. Alors, je l'ai dit, c'est un film qui est souvent un peu mal considéré pour des raisons évidentes qui sont qu'il aura 4 suites et que la série des Rambo va devenir très différente et même complètement caricaturale au fur et à mesure que ça se situe à l'étranger et que Rambo se met à affronter des hordes de Viet Cong. Et les Rambo, évidemment, vont devenir un stéréotype de ce qu'on pourrait un peu appeler, disons, lapidairement les films de bourrin. Mais First Blood, c'est pas du tout ça.
Pas du tout.
Ça se passe aux États-Unis, dans le nord-ouest très sauvage des États-Unis, vers l'Oregon, vers l'État de Washington. Et c'est un très grand film, adaptation d'un grand roman de David Morrell, qui parle de la difficulté pour les vétérans de se réinsérer dans la société américaine. Et d'ailleurs, dès le début, il a été très clair que ce serait un film de qualité, puisque j'ai découvert, en lisant des choses pour ce podcast, que certains acteurs qui avaient été d'abord pressentis pour le rôle-titre, c'était Dustin Hoffman, Al Pacino, Steve McQueen, Robert De Niro, Kris Kristofferson, etc.
Nick Nolte est aussi pressenti, Kirk Douglas devait aussi jouer dedans. C'est vrai qu'il y avait une grande distribution.
Ouais, et donc ça inscrit le projet dans un certain secteur du cinéma américain où je trouve qu'il a totalement sa place. Alors, on va quand même résumer. C'est l'histoire d'un vétéran des forces spéciales, un béret vert, qui rentre non pas chez lui, parce que clairement il n'y a pas de chez lui, mais vers cette région étrange et sauvage des États-Unis qu'est le Pacifique Northwest, et où il se met à dos très rapidement les forces de l'ordre d'une petite ville qui se mettent à le tourmenter par bêtise et par ce qu'ils peuvent. Et ce qui, évidemment, se révèle assez rapidement une assez mauvaise idée. Mais dites-nous donc, Alexandre Papa-Emmanuel, ce qui vous attire et ce qui vous intéresse dans ce film, donc ce Rambo First Blood, celui de 1982.
En fait, vous l'avez bien dit, c'est un film charnière et qui invite à finalement dépasser certaines apparences, certains préjugés qu'on peut avoir. Et il faut prendre le temps, essayer de le gratter et essayer de voir ce qu'il y a derrière. C'est avant tout le regard que la société, à un instant T, porte sur ses soldats et inversement, sur le sentiment qu'a le soldat quand il rentre chez lui. Vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment de chez lui, il est vagabond, Rambo, il n'a pas encore son prénom, qui viendra après dans la suite des trilogies. Et on le caricature beaucoup à cause de cette suite qui a été faite. Mais ce premier film, en fait, est celui d'un homme qui reste fidèle en fait à ses valeurs. La scène d'ouverture est d'ailleurs ce soldat qui erre et qui va voir la famille d'un de ses anciens compagnons, qui découvre qu'il est mort du cancer suite à la propagation de l'agent orange, et donc il est accueilli assez fraîchement.
Dale Moss gone.
What time will he be back?
He died.
What?
Died last summer.
Died how?
Cancer. Brought it back from there. All that orange stuff that spread it around. Cut him down to nothing. I could lift him off the sheet.
il repart sur la route et là il arrive dans une ville qui porte un nom d'ailleurs.
Mais alors on peut on va juste s'arrêter quand même sur cette première scène parce qu'elle est assez incroyable parce que en rien du tout de temps et d'effet, elle dit énormément de choses parce qu'il se rend dans cette famille qui est une famille noire.
Oui.
Ce qui renvoie très subtilement, mais au fait, au mythe du Vietnam comme creuset et comme mine de rien endroit où la société américaine s'est aussi unifiée dans une certaine mesure. Et effectivement, ça parle, on met en trois phrases, quoi, de l'agent orange et du fait que son ancien camarade est mort du cancer suite à l'agent orange. Ce qui est un truc dont on parlait pas du tout en 82. Du fait que des générations étaient ravagées par l'utilisation donc de ce défoliant qui a provoqué des maladies en série après.
Et du coup, on voit effectivement cette fraternité d'armes qui dépasse les classes sociales et les stéréotypes. On voit aussi que finalement, être soldat, c'est donner la mort, mais c'est aussi parfois être victime des armes qu'on utilise. Et ça parle de cette tragédie. Du coup, aussi, c'est de même si la guerre est finie, on peut l'avoir en nous. Et c'est un petit peu tout le... On peut revenir à la maison avec un cancer, là, en l'occurrence pour l'agent orange, mais aussi avec des traumas, toujours cette guerre qui est dans les âmes, qui est dans les corps et qui va continuer de hanter. Et c'est vrai que cette première scène est assez forte. Après, on le revoit partir sur la route et il rentre dans une petite ville qui s'appelle Hope, qui doit donc du coup... être le symbole des États-Unis et de l'espoir de retrouver un endroit qui pourrait être chez lui, où il pourrait se sustenter. Et là, vous avez raison, c'est le début des ennuis pour les uns et pour les autres. Et c'est un film charnière parce qu'il parle de l'ambiguïté, finalement, qu'il peut y avoir entre le cinéma des années 70, qui est un cinéma très critique, avec le nouvel Hollywood, avec des grands noms du cinéma, du coup, Cimino, Coppola et tant d'autres qui vont, même Terrence Malick, qui vont parler de cette guerre, même Kubrick. Et puis, de l'autre côté, un cinéma plus individualiste que celui des années 80, où on va exacerber l'homme seul, face contre tous, et on va rentrer dans le film d'action. C'est aussi ce film charnière, parce que on est dans un moment où si les Bullitt et les autres films ont été des films avec un petit peu de tension, même l'inspecteur Harry, dans celui-là on rentre très très rapidement dans l'action.
Ouais, mais alors on peut dire c'est très intéressant parce que c'est un film, c'est un très grand film sur le PTSD, le stress post-traumatique. Mais là où c'est très intéressant par rapport à d'autres, alors John Rambo est évidemment un exemple parfait de quelqu'un qui est dans un presque l'état chimiquement pur quoi du PTSD. Il est en choc, il revit en permanence les mêmes scènes, c'est évident. Mais là où c'est intéressant, où ça se différencie par exemple de Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino auquel vous avez fait rapidement référence, et ce qui est vraiment très intéressant dans ce film, c'est que c'est pas seulement le stress post-traumatique, c'est-à-dire c'est pas seulement les vétérans qui réussissent pas à se réinsérer dans la société, c'est aussi ce que montre ce film, c'est une société qui sait pas quoi faire d'eux, quoi, qui a pas de place pour eux. Et qui du coup, enfin, je veux dire, c'est pas que les vétérans qui sont des polytraumatisés, c'est aussi simplement une société qui a évolué, qui essaye très fort d'oublier le Vietnam parce que c'est pas un souvenir très plaisant, et qui du coup en fait n'a juste aucun endroit pour eux. Et c'est aussi ça c'est le spectre même pas du déclassement mais de la clochardisation de ces vétérans. Vous le disiez à l'instant, c'est pourquoi est-ce que tout le monde est hostile à John Rambo quand il arrive, et ils le disent, c'est parce qu'ils ont peur que ce soit un drifter, c'est-à-dire un clochard qui passe de ville en ville et qui amène des problèmes, ce qui a été de fait le destin de beaucoup de vétérans.
Why are you pushing me?
What did you say?
So why are you pushing me? I haven't done anything to you.
First of all, you don't ask the questions around here. I do. You understand? Secondly, we don't want guys like you in this town. Drifters. First thing you know, we got a whole bunch of guys like you in this town. That's why.
Vous avez raison, ce film justement joue sur les ambiguïtés et sur les ambivalences en fait. Et du coup, ces hommes qui sont partis au front, qui étaient prêts à sacrifier leur vie, Du coup, comment on les remercie? Et on voit qu'on a quitté cette représentation d'un idéal héroïque, qu'on a quitté un petit peu cette gloire immortelle et puis cette éthique un petit peu sacrificière où avant on accueillait les soldats en héros et là on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, on joue vraiment sur les ambivalences. Ce soldat a les cheveux longs. Il porte donc du coup une veste kaki avec un drapeau américain qui pourrait le faire ressembler à un hippie. C'est une confrontation aussi entre le militaire et la société civile.
Oui, ça soit dit en passant, c'est très subtil. Il y a un dialogue qui est très subtil, un des premiers dialogues avec le shérif, où le shérif dit à Rambo, c'est une provocation cette veste que tu as.
You know, wearing that flag on that jacket, looking the way you do. You're asking for trouble around here, friend.
Pourquoi il faut, en fait, j'ai mis du temps à comprendre, c'est parce qu'il a effectivement une veste avec un blason américain, ce qui est les vestes de surplus militaire, ce qui a été un truc complètement détourné par les hippies, justement, pour critiquer et tourner en dérision l'appareil militaire, disons, américain. Et du coup, le voir un vétéran avec un surplus militaire, paradoxalement, ça le fait l'associer à un hippie, quoi.
Exactement. Et donc, on a cette confrontation entre le militaire et la société civile, entre le militaire même et le détenteur du monopole légitime d'utilisation de la force, c'est-à-dire le shérif, entre qu'est-ce qu'un ami, qu'est-ce qu'un ennemi, est-ce que donc du coup c'est une mauvaise troupe, entre des chasseurs et des chassés, il y aura un inversement d'ailleurs à un moment dans le film, un retournement où celui qui est traqué deviendra le traqueur dans cette forêt.
Okay. Do some hunting. Hunting. We ain't hunting him. He's hunting us.
Cette forêt qui finalement représente aussi le Vietnam qu'on ramène aux États-Unis, puisque les techniques qu'il va apprendre au Vietnam, il va se battre comme un Vietcong, finalement, Rambo, dans cette forêt où il va être traqué par, dans un premier temps, les forces du shérif et après par la garde nationale. Il va y avoir aussi donc ce renversement entre servir son pays et le trahir. Un dernier renversement, et vous en avez fait référence avec du coup l'ouvrage de Morel, c'est que le shérif est aussi dans le roman un ancien vétéran et lui de la guerre de Corée. Et donc on voit aussi qu'il y a un affrontement entre deux idéotypes, celui du vétéran qui est aujourd'hui rangé et qui a réussi en devenant shérif à essayer d'intérioriser ses pulsions parfois meurtrières et du coup ce vétéran du Vietnam dont on ne sait que faire et qui devient même encombrant du coup pour les États-Unis et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant dans ce film, c'est ces allers-retours et ces effets de miroir.
Ouais, et puis il y a aussi des thèmes qui sont fascinants. On en parlait un peu juste à l'instant avec les surplus, mais les surplus, en fait, c'est ça qui est fascinant, et c'est un problème qui arrive jusqu'à aujourd'hui dans la société américaine, c'est que les surplus militaires, ça ne s'arrête pas aux vestes. En fait, ce qu'on voit, c'est une traque avec des armes de guerre. Et en fait, c'est un film qui montre que des civils, bon, garde nationale, c'est des gérants de drugstore, enfin vraiment, c'est des gens qui parfaitement normaux, qui ont entre les mains des lance-roquettes, des fusils mitrailleurs, des armes de guerre. Ce qui est un problème très réel, qui est le fait que les surplus militaires, disons les fournitures militaires, ont été distribuées aux forces de l'ordre après les différents engagements extérieurs des États-Unis, ce qui est encore un problème aujourd'hui, puisque ça pose, enfin, mais parce que voilà, disons, la confusion permanente et le fantasme, y compris qui est montré chez les forces de l'ordre, de se croire en état de guerre, de se croire des héros de guerre, et dont on pousse la contradiction jusqu'au bout en les mettant face à face avec, pour le coup, un vrai héros de guerre qui, lui, sait se servir de ses armes, avec lesquelles ils ont l'air ridicules, eux.
Vous avez raison. La question qui est posée, finalement, c'est qui est l'ennemi? Et l'ennemi, c'est toujours une construction. Et c'est vrai qu'on le voit dans ce film d'action, parce que c'est un vrai film d'action, avec aussi un film sur l'infiltration, comment on disparaît et on devient une ombre dans la montagne, comment on utilise du coup les éléments pour faire un effet de surprise, et se pose la question de l'ennemi de l'intérieur. Tout le monde est armé, il y a d'ailleurs une scène où à un moment Rambo, quand il quitte la colline, qu'il renaît presque en partant de tunnel, qui sont aussi le vestige du coup d'une montagne qui était productive et qui ne l'est plus, mais il va se rendre en ville et là il va prendre des armes qui sont dans une armurerie et donc il va se transformer, c'est-à-dire ça va être Frankenstein finalement, ce monstre qui va se retourner alors qu'il demandait rien contre le pays qu'il a créé parce qu'il n'arrive pas à trouver une place et la guerre va s'installer dans la ville. Avec ce shérif qui demande d'ailleurs à ce que la population se confine, il passe le message pour que chacun reste chez eux, et on voit John Rambo avec cette arme automatique lourde, avec ses munitions.
Le légendaire M60 de John Rambo.
C'est exactement, ça. Partir à l'assaut du commissariat où tout a commencé, puisque, et là, ce qu'on disait tout à l'heure, il a été vu comme un vagabond, on doit du coup le laver, hein, on doit le raser, on doit lui couper les cheveux. Et là, il y a aussi cette figure du coup un peu christique de Stallone, qui sera le héros de la classe ouvrière et qui va vivre une sorte de flashback avec ce qu'il a vécu au Vietnam. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un switch dans le film de celui qui, bon an mal an, se conforte quand même à l'ordre qu'on lui donne de pouvoir être confiné dans le commissariat de police. Va complètement basculer, va revivre ces moments finalement de torture où il était sur une croix. Et là, on retrouve un héros qu'on retrouvera après, hein, finalement, avec Sylvester Stallone, un héros mythologique, une sorte de Hercule.
Ouais, mais alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, je pense dont il faut parler, il y a une double dimension de deux grands genres classiques qui sont très finement et très habilement, disons, tissés l'un avec l'autre, qui sont d'une part, effectivement, le film de super-héros. Effectivement, Sylvester Stallone. Alors, c'est beaucoup moins caricatural que ça le sera dans les Rambo suivants. Mais quand même, il y a une notion de super-héros, c'est-à-dire c'est l'homme qu'on ne peut pas arrêter face auquel tout le monde est impuissant. C'est vrai dans les faits, c'est aussi très vrai dans le discours. Ça passe beaucoup par le discours. C'est l'idée que vous allez voir, on peut rien faire contre lui. Mais le deuxième élément dont vous avez parlé, c'est le film d'horreur. Et formellement, c'est aussi un très grand film d'horreur. Je revoyais notamment les scènes de traque dans la forêt.
Ouais.
Et c'est vraiment, c'est au niveau des grands films d'horreur, par le silence, par la terreur que le film installe. Et ça dit quelque chose, en l'occurrence, du problème qui est que, comme dans la plupart des films d'horreur, et vous avez fait une référence à Frankenstein qui est tout à fait juste, c'est l'Amérique se retrouve face au monstre qu'elle a elle-même créé.
C'est vrai, elle se retrouve face au monstre qu'elle a créé. Et en même temps, il a les épaules larges et il paye pour nos propres péchés. Pour ce soldat, et là je reprends une référence de Mick Ferron, de ce soldat méconnu, qu'on ne sait pas du coup adresser, qu'on voit tantôt comme un martyr, une victime, qu'on interroge du coup sur sa fidélité à des idéaux. Et cette scène qui est vraiment assez forte, où il est en train de se faire torturer, il est sur une croix, rappelle vraiment à ce côté christique de celui qui paye pour nos péchés. Et si on va pouvoir après critiquer Rambo dans le sens où on dira qu'il est devenu un héros des époques Reagan, de celui de la guerre froide face aux communistes, il reste quand même dans cette premier épisode celui qui porte toutes les erreurs qui sont les nôtres sur ses propres épaules, celui qui va essayer de défendre les faibles. Et ce qui est assez marrant dans l'histoire du film, finalement, c'était 10 ans de production un peu chaotique, vous l'avez dit, avec des grands noms qui ont été annoncés. Ça aurait dû être un film de grands studios. C'est finalement un film un petit peu B, qui est avec une petite prod, avec une économie de moyens, mais une image qui est assez forte, et puis un son aussi, une bande-son qui est très, 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 très bien faite, un peu mélancolique et très intéressante, faite par Jerry Goldsmith, parce qu'elle commence tout doucement et elle peut être très, très épique. Et finalement, c'est Stallone qui, alors que dans le roman, Rambo meurt à la fin du premier épisode, dans ce commissariat dans lequel il va se venger. Et ça a été d'ailleurs le départ de Kirk Douglas dans la production, parce que t'es pas d'accord avec la fin qui a été retravaillée par Stallone, parce que Stallone veut toujours donner une deuxième chance en fait au personnage, et donc du coup il survit, il ne se donne pas la mort. Ils avaient fait d'ailleurs des tests de projection où le colonel qui a formé John Rambo, le colonel Trotman, tue ce monstre qu'il a lui-même façonné, un homme malade dans un pays malade, mais incapable de pouvoir être contenu. Et donc, il voudra lui donner une deuxième chance. Et c'est ce qui fait toute la différence de ce film. C'est-à-dire que Stallone va dire, il faut qu'on puisse refuser son destin. Il faut qu'on puisse, du coup, être une sorte de loser invincible. Et c'est vrai qu'il y a un lien, comme vous le dites, avec le film de super-héros, où bah, il y a un moment, il faut montrer une faille. Et ce que dit finalement Sylvester Stallone, c'est que les derniers seront les premiers. Et même si on peut critiquer la suite qui a été donnée à ce film, il y a toujours finalement cette place dans Rambo. Je le défends un petit peu avec passion peut-être, mais c'est un film à la gloire des soldats. Et même dans le 2, où il va aller sauver finalement des soldats qui ont été abandonnés, trahis par leur pays, complètement délaissés, eh ben, il va, lui, aller les secourir, et là je cite, parce qu'il veut ce qu'ils veulent. C'est que ces types sont venus ici, bien moi, je viens les sauver, parce que ben, notre pays, c'est tout ce qu'on aime, et on aimerait que notre pays nous aime autant. Et donc, il y a sorte de fidélité, finalement, à l'éthique du soldat, à la camaraderie, à la fraternité, qu'on va retrouver, même si ça va être forcément dénaturé. Et puis, quand on lui donnera un prénom, ça va devenir très, très violent, hein, puisque le parti du 3, le film deviendra John Rambo. Et là, c'est vrai que c'est un déferlement de violence et qu'il n'y a plus cette logique un petit peu de bah, tout n'est pas si simple. Il y a du bien dans du mal et du mal dans du bien.
C'est un film qui, bon, celui-là, mais surtout après, se laissera très facilement caricaturer, se fera caricaturer très brillamment aussi par les Hot Shots, la série des Hot Shots qui est extrêmement drôle.
C'est vrai.
Mais, bon, c'est voilà, il faut rappeler que ça n'engage que nous, mais c'est un immense film qui, je pense, ne fait sourire que ceux qui l'ont pas vraiment vu et qu'on encourage tout le monde à voir. Il est disponible sur les sites de VOD habituels. Je voudrais simplement conclure par une anecdote que j'aime beaucoup et que j'ai apprise en lisant des choses pour ce podcast, qui est que David Morrell était prof de fac, notamment au moment où il écrivait son roman, et que le nom Rambo provient d'Arthur Rimbaud, qu'il lisait beaucoup en écrivant son roman. Et voilà, à la fois ça me plonge dans des abîmes de perplexité, et en même temps je trouve que ça a une certaine pertinence à plusieurs niveaux. Merci beaucoup Alexandre, Papa Emmanuel.
Merci pour votre accueil.
Et bonne journée à tous, à demain.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.